16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, la seule émission d'histoire où vous pouvez croiser Louis XIV et Michael Jordan, des tanks de la Seconde Guerre mondiale et des pistolets à eau super soccer, des chroniqueurs hyper compétents et d'autres adeptes d'expériences borderline avec leur microscope. Heureusement, pour encadrer tout ça et donner un peu de cohérence à ce joyeux bordel, il y a Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ravi de passer ces deux heures en votre compagnie. En compagnie aujourd'hui de trois personnages très différents mais qui avaient un point commun. Trois personnages qui ont imaginé leur propre comédie humaine et ont donné eux-mêmes vie à une ribambelle de personnages plus vrais que nature. À tout seigneur, tout honneur, il nous a inspiré le titre de cette émission et il a inspiré surtout nos autres personnages du jour. Je vous raconte Honoré de Balzac et sa comédie humaine, sa cathédrale de papier restée inachevée qui raconte la France, les mœurs de son époque et la société telle qu'elle était. Puis lui aussi a raconté son époque et fait sa comédie humaine, le cinéaste Claude Chabrol qui en 50 ans de carrière et presque autant de films, de la nouvelle vague au début des années 2000, a dépeint les travers d'une partie de la société, celle d'où il venait, la bourgeoisie. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai de votre deuxième écrivain préféré, après Sylvain Tesson.
Oui, j'ai des classements comme ça, comme les enfants. Lui aussi a inventé sa comédie humaine, elle est à la fois désespérante et très drôle, c'est Michel Houellebecq. Je sais Stéphane que vous lui en voulez beaucoup depuis son roman Les particules élémentaires, que vous avez pris comme une attaque contre ceux que vous aimez. Je tenterai de dissiper ce malheureux quiproquo sémantique.
J'aime beaucoup. Et avec nous, comme chaque jour, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour à tous et aujourd'hui je vous entraîne plutôt dans une tragédie que dans une comédie puisque je vais vous parler des kamikazes. Et peut-être le saviez-vous, mais avant de désigner les pilotes volontaires pour écraser leur avion sur des bateaux américains pendant la Seconde Guerre mondiale, le mot kamikaze, vent divin en japonais, appartenait à une vénérable chanson de geste racontant la tentative de conquête du Japon par l'empereur mongol Kublai Khan en 1280. Alors comment est-on passé de la chanson de geste façon chanson de Roland aux missions suicides de la Seconde Guerre mondiale? C'est ce que je m'en vais vous narrer par le menu.
Et Clémentine, avant de s'envoler pour la mission finale, il y avait évidemment la cérémonie du thé. Et c'est pour ça que David Castello-Lopez est là avec nous aujourd'hui pour nous raconter l'origine du thé.
Du thé lui-même, pas de la cérémonie du thé particulièrement japonaise, mais du thé lui-même. C'était une des grandes passions de mon existence.
Ah, ça aussi.
Oui, voilà, donc je vous en parlerai un petit peu en connaissant.
Ce serait pas un peu...
Oui, vous marchez sur ces...
Je me suis dit, vous avez fait la fourchette, vous voyez. Donc,
c'est pas vraiment une recette. C'est pour manger.
Non, venez pas au point.
La caponata, Olivier Pouls.
J'aime bien votre manière de recentrer les débats.
C'est une...
Je voulais faire l'origine de l'imperméable, mais du coup, en fait, je vais faire la caponata.
Ça a un nom d'art martial.
Oui, c'est un nom d'art martial où caponata, ça fait un peu mafieux, mafieux sicilien.
Plus,
mais vous verrez l'origine de ce plat, puis la recette, évidemment. Vous savez ce que c'est la caponata?
Une sorte de ratatouille, non?
Un petit peu, oui. Ça se mange plutôt froid, d'ailleurs.
Il y a déjà eu une sorte de ratatouille l'autre jour, non?
Oui, ça fait beaucoup de ratatouille.
Oui, dans laquelle on battait des œufs. Mais qu'est-ce que c'était déjà? La chouchouka.
La chouchouka, mais ça n'a rien à voir.
Ce ne sont pas les mêmes
ingrédients. Vous recyclez ces vieilles tomates.
Ce ne sont pas les mêmes ingrédients.
Ces aubergines et ces courgettes.
Enfin, notre comédie humaine à nous se joue chaque jour à guichet fermé aux alentours de 5h-10. On appelle ça Bern to be alive, un quiz qui tient plus de la foire d'Empoigne que de l'agrègue d'histoire, mais ça tombe bien, ici personne n'envisage de passer l'agrègue. Tout de suite, découvrons notre premier personnage à avoir dépeint la comédie humaine. Stéphane Bern nous raconte Honoré de Balzac.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il y a ceux qui jouent la comédie.
Ah non, vous voulez me tuer !
Et ceux qui ont passé leur vie à l'écrire. Une comédie humaine comme un témoignage de la vie et des mœurs d'une époque. Stéphane Bern nous raconte un auteur vraiment pas comme les autres, Honoré de Balzac.
Lorsqu'il commence à rédiger les ouvrages qui vont petit à petit trouver leur place dans ce qui deviendra la comédie humaine, Honoré de Balzac n'a pas encore pleinement conscience de l'œuvre qu'il est en train de réaliser. Il a déjà de la bouteille en littérature pourtant. Au début des années 1830, cela fait bientôt 10 ans qu'il publie à tour de bras des romans d'aventure, mais jamais sous sa véritable identité parce qu'il a tout simplement honte de cette littérature alimentaire et des intrigues à l'eau de rose. C'est vrai que Balzac est loin de ses ambitions premières, mais voilà, il faut bien vivre, d'autant que sa famille ne roule pas sur l'or depuis la mort de son père. Alors Honoré fait feu de tout bois. Il feuilletonne un peu partout, il touche aussi à la presse et au journalisme. Bref, il vit qu'à un cas de sa plume, mais sans vraiment percer. C'est pourtant pour cela qu'il s'est lancé dans l'édition, bien décidé à trouver la poule aux œufs d'or qui lui permettrait d'assumer son goût revendiqué pour le luxe. Mais l'aventure a tourné au désastre industriel, une catastrophe qui va le ruiner pour le restant de ses jours. Alors Balzac décide une bonne fois pour toutes d'abandonner la littérature facile pour renouer avec ses premières ambitions. Il publie coup sur coup deux ouvrages. Physiologie du mariage, d'abord présenté comme un essai sur le bonheur et le malheur conjugal, publié par un jeune célibataire. Puis le roman Les Chouans, le premier livre signé de son nom. Les deux livres se vendent bien et La peau de chagrin, l'année suivante, fait déjà exploser sa renommée bien au-delà de nos frontières. Ce monstre de travail se met alors à écrire partout, tout le temps et surtout, quitte à avaler des quantités industrielles de café et à sacrifier sa santé sur l'autel de la littérature. Il est toujours ruiné, mais il est célèbre et il commence à cerner son ambition profonde, peindre les mœurs de son époque, de sa société. C'est en 1835 que Balzac a une fulgurance. Alors qu'il est lancé dans l'écriture du père Goriot, lui vient une idée encore neuve en littérature. Et si les personnages qu'il avait créés dans un ouvrage apparaissaient à nouveau dans une autre intrigue, puis dans une autre et encore une autre, chaque roman serait alors l'écho d'un précédent. Cette fois, ce n'est plus le fil d'une intrigue unique que l'on compose, c'est toute une tapisserie, une trame capable de représenter tout ce que Balzac a en tête. Ce n'est plus un livre, c'est une composition immense, une cathédrale de papier, qu'il décide d'appeler la comédie humaine en référence à la Divine Comédie de Dante. Là où le génie italien avait construit une œuvre théologique, Honoré de Balzac élève une œuvre sociologique, autrement dit, une peinture de la société et des mœurs de son temps. L'ambition de Balzac est à la hauteur de son génie et de son ego. Il le confesse lui-même, son rêve, c'est de concurrencer l'état civil. La comédie humaine, c'est 21 ans de travail, plus de 2200 personnages de fiction et 2000 autres bien réels. Et si c'est une cathédrale, alors c'est la Sagrada Familia de Barcelone, jamais vraiment achevée. Balzac a beau s'y plonger corps et âme, il ne la conclura jamais. Saisi par la mort en 1850, après 50 ans d'une existence qu'il aura brûlée par les deux bouts. Lorsqu'il mourut, on retrouva encore une cinquantaine de projets et ébauches plus ou moins avancés. Mais l'œuvre est déjà immense. Sa comédie humaine, c'est le monde selon Balzac, construit sur une conviction essentielle. Il n'y a pas de sujet indigne de la littérature. Balzac est convaincu qu'un auteur doit parler de toute la société, y compris dans ses détails les plus laids. Il n'y a aucune raison de fermer les yeux sur ce qu'on ne montrait pas jusque-là, parce qu'on le jugeait trop vulgaire, trop pauvre ou trop triste. Comme Charles Dickens avec l'Angleterre, Balzac veut tirer le portrait de la France de son temps. Comment ? D'abord en faisant le portrait de l'humanité sous toutes ses formes, de la plus sordide à la plus pure, puis en décrivant les rouages d'une société bouleversée par les révolutions successives, transformée par le progrès, mais aussi par l'argent, le pouvoir et la finance. Et puisque tout est littérature, Balzac va chercher ses intrigues très loin, jusque dans le code civil, par exemple, avec Eugénie Grandet. Eugénie, c'est une jeune fille dont la mère est sur le point de mourir, quand son vieil avare de père réalise que ce n'est pas lui qui va hériter de la fortune de sa femme, mais bien sa fille, parce que c'est ce que prévoit le code civil, il va tout faire pour garder ses écus. Mais la comédie humaine de Balzac, c'est avant tout une galerie invraisemblable de personnages que l'on voit au fil des pages, des livres et des années vieillir, mourir, se marier, se ruiner, faire des enfants et en perdre, comploter, monter ou descendre l'échelle sociale. Une galerie. Et quelle galerie ! On croise Vautrin, ancien forçat sans scrupules qui doit beaucoup à Eugène Vidocq et qui finira chef de la police, comme son modèle dans la réalité. Il y a le père Goriot, ce père touchant et naïf jusqu'à l'aveuglement, prêt à se saigner aux quatre veines pour ses ingrates de filles, au prix de sa propre déchéance et du mépris général. Il y a Rastignac, évidemment, l'un des rares personnages de fiction dont le nom soit devenu un archétype. celui du jeune ambitieux monté à Paris avec le célèbre défi qu'il lance à la terre entière depuis le haut du Père Lachaise, à nous deux maintenant. Et puis, il y a Horace Bianchon, le modèle du médecin intègre et prêt à tout pour sauver ses patients. Balzac l'aimait tant qu'on dit que sur son lit de mort, il appelait désespérément Bianchon à son secours, comme si le docteur avait pu se matérialiser devant lui. Si l'anecdote n'est pas avérée, elle en dit long sur le lien inouï entre Balzac et cette comédie qui reste la création de sa vie. Sa comédie humaine reste une œuvre toujours aussi incroyable aujourd'hui, ne serait-ce que par son volume, 137 ouvrages dans 70 romans. Mais c'est aussi une œuvre nouvelle par son organisation. Honoré de Balzac l'a divisé en trois catégories. Les études de mœurs, la plus importante, avec des romans qu'il qualifie de scènes, scènes de la vie privée, scènes de la vie de province, scènes de la vie parisienne, de la vie militaire, de la vie de campagne, j'en passe. Il y a les études philosophiques où Balzac cherche à analyser tout ce qui mène ses personnages vers un destin inexorable. Et il y a enfin les études analytiques où il se fait sociologue avant l'heure. L'autre particularité de l'œuvre, ce sont ses défauts. Même si Balzac avait une mémoire d'éléphant, même s'il était capable de reprendre 15 fois ses épreuves avant de donner son accord à l'imprimeur, on ne construit pas un labyrinthe pareil sans créer tôt ou tard un problème de cohérence interne. Il y a des erreurs de chronologie, des morts qui retrouvent la vie, des dates qui ne collent pas, des caractères qui changent un peu trop. Et Balzac, qui en avait pleinement conscience, avait pensé à construire une sorte de guide pour aider ses lecteurs à se retrouver dans le labyrinthe de sa comédie. Mais le plus frappant, c'est la modernité de certains de ses thèmes, comme la place que Balzac accorde aux femmes. Il est le premier écrivain à parler de leur vie telle qu'elle l'est, pas telle que les hommes la voient. Il suffit de penser à Eugénie Grandet ou à la cousine Bette, sans doute l'un des plus beaux personnages de garce de la littérature française, aigrie, sèche, odieuse et jalouse à en crever de sa cousine Adeline qui a tout ce qu'elle n'a pas. C'est un personnage atroce et l'un de ses plus beaux aussi. La plus belle richesse de Balzac, c'est qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour. À chaque relecture, le lecteur découvre un nouvel angle, un nouveau détail, une nouvelle vacherie aussi. Son œil est si acéré que la comédie humaine reste un témoignage hors du commun sur la France du Premier Empire à la Révolution de 1848. Et on pense à la phrase de l'écrivain italien Italo Calvino, pour qui un classique, c'est un livre qui n'a pas fini de dire ce qu'il a à dire. Alors, la comédie humaine est définitivement un de nos plus grands classiques.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Balzac, nous avons le grand plaisir d'accueillir celui qui vient de mettre un morceau de son œuvre en image, l'écrivain et cinéaste Marc Duguin. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bonjour Marc Duguin, vous venez en effet d'écrire et réaliser Eugénie Grandet, votre quatrième long métrage actuellement en salle. Un film qui est bien évidemment l'adaptation du roman qu'Honoré de Balzac avait publié en 1834. Au milieu de l'immense galerie des personnages de la comédie humaine dont on parle cet après-midi, pourquoi avoir choisi Eugénie Grandet, qui est d'ailleurs magnifiquement interprétée dans votre film par Joséphine Japy?
En fait, je tournais autour de plusieurs livres de la comédie humaine. J'avais pensé à une époque à adapter Le Cousin Ponce, La Cousine Bette, que je trouve très fort. Et puis, pendant des vacances, il s'est trouvé que j'avais dans ma bibliothèque, c'est une maison où il n'y avait pas beaucoup de livres, et il y avait Eugénie Grandet. Je me suis dit, tiens, bah, je vais le relire, on va voir ce que ça donne. Et là, j'ai été stupéfait par le ferment de modernité qu'il y a dans le livre. Et j'ai écrit le scénario tout de suite derrière. Et ensuite, on est parti dans cette aventure. Ce qui est très intéressant, c'est que Eugénie Grandet, c'est déjà le rapport à l'argent, un rapport, je dirais, entre guillemets, laïque, et qui, d'une certaine façon, va déterminer le développement du libéralisme et du capitalisme jusqu'à nos jours. Donc c'est très intéressant parce que ça, il y a une sorte de genèse de ce qu'est la société financière aujourd'hui. C'est un type qui fait des coups. C'est ce qu'aurait voulu être Balzac d'ailleurs, parce qu'il a essayé de faire plein de coups financiers. Il a été dans les affaires, il a tout foiré.
Alors qu'il comprend si bien l'argent,
il y a cette phrase très forte dans votre film. À un moment, le père Grandet dit: si on ne respecte pas l'argent, on ne se respecte pas soi-même.
Exactement.
C'est horrible. Mais ce qui est merveilleux, c'est que vous avez su... c'est-à-dire que c'est un univers cinématographique, Eugénie Grandet. Bah, il est radin, hein, au-delà de ce qui est possible, mais vous avez su recréer... C'est très cinématographique, Eugénie Grandet, en fait.
Ben oui, parce que j'en étais pas persuadé avant de lire le livre, mais il s'est trouvé que ce rapport à l'enfermement, ce rapport à l'espace, tout ça fait que il y avait toutes les conditions pour faire un film. Et puis évidemment, c'est aussi la genèse de pour nous en tout cas, ce qui aujourd'hui où on parle beaucoup de la condition féminine, c'est très intéressant de voir ce qu'était pour une jeune fille de province. Une petite bourgeoisie, même si elle était très riche, mais une petite bourgeoisie de province, ce que c'était que la vie d'une femme au début du 19e siècle. Et c'est effrayant.
Ouais.
C'est absolument effrayant. C'est-à-dire que c'était l'église, pas le droit d'aller au théâtre parce que c'était. La religion l'interdisait. De temps en temps, elle sortait pour aller voir les moissons. Puis le reste du temps, elle passait son temps à repriser des draps, des vêtements. Et c'est une sorte de prison. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu ce rapport aussi très fort entre Grandet et cette fille. Parce que Grandet, il est dans la possession. Tout lui appartient. C'est-à-dire l'argent lui appartient, mais les êtres humains lui appartiennent aussi. Et évidemment, sa fille lui appartient, sauf que ce qui est intéressant, c'est la façon dont elle s'émancipe sur les contradictions de son propre père.
Et même les cadeaux qu'il lui offre, c'est-à-dire l'or qu'il lui donne, appartient au père.
Elle
n'a rien en propre.
Elle lui donne de l'or tous les ans. Son anniversaire.
Il a une pièce d'or pour son anniversaire. Et
elle lui interdit de s'en servir. Donc, évidemment, quand elle donne cet argent à Charles, dont elle est tombée éperdument amoureuse, qui va partir dans les îles pour faire on ne sait quel commerce, là, c'est la rupture. Parce qu'elle a usé par elle-même de son argent sans l'avis de son père, qui est le grand expert. Et c'est vrai que c'était un grand expert. Grandet, ce qui est extraordinaire dans le livre, c'est que c'est le premier qui comprend l'intérêt de la rente d'État et comment spéculer sur la rente d'État. Enfin, c'est une leçon de finance au début du 19e siècle.
Mais elle a existé vraiment, Jenny Grandet, ou elle est née entièrement de l'imagination d'Honoré de Balzac?
Alors, il y a sur les quais de Saumur une maison très très belle qui reste là et qui apparemment était la maison de l'homme dont s'est inspiré Balzac. Ce qu'on sait moins, c'est si vraiment sa fille a eu ce sort-là ou si c'est sorti de l'imagination de Balzac, qui, comme on le sait bien, n'en manquait pas.
Alors Marc, vous êtes plongé dans l'œuvre de Balzac, replongé, en adaptant son roman Eugénie Grandet dans un très beau film avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet et Valérie Bonneton. On écoute un extrait justement.
Sans argent, qui voudrait de moi?
Qui ne respecte pas l'argent ne peut aspirer au bonheur.
Je suis Charles Grandet, fils de votre frère.
Si vous le souhaitez, cet après-midi, je vous emmènerai voir le pays.
Volontiers.
On jase beaucoup en ville sur la façon dont vous traitez votre fille.
Est-ce que l'idée d'avoir à payer une dot vous arrache le cœur?
Pas un liard ne sortira de ma poche pour acheter un mariage à ma fille. Il a fallu que vous sortiez avec mon neveu pour faire courir les rumeurs les plus folles dans son mur.
Extrait de la bande-annonce, vous l'aurez compris. Alors moi j'ai une question, Marie-Louis, à chaque fois que je vois un film comme ça d'époque, et c'est le travail sur la langue. Comment on fait pour ne pas traiter Balzac tout en réécrivant un petit peu quand même les passages pour que ça nous parle? Comment vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que c'est le plus dur quand on fait un film comme ça?
En tout cas c'est le plus important. Même si c'est pas forcément le plus dur, c'est le plus important. C'est-à-dire à la fois de respecter la langue de Balzac, qui est quand même une langue d'une richesse qu'on a de moins en moins. Et en même temps, il y a, du point de vue des gens d'aujourd'hui, cette langue leur paraît un peu surannée. Et donc, il ne faut pas non plus les dégoûter de cette langue en mettant
les
trop.
Assommer, oui.
Donc, toute la question, c'est l'équilibre, sans tomber non plus dans l'espèce de démagogie où on parlerait comme aujourd'hui. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et c'est un travail qui est venu assez naturellement, parce que moi j'aime beaucoup cette langue-là, et en même temps j'ai ce sentiment qu'elle peut paraître, en particulier pour les jeunes, complètement dépassée, et qu'elle s'apparente à une forme de préciosité qui aujourd'hui n'a plus cours.
Eugénie Grandet, je le disais tout à l'heure, Marc, dans mon récit, c'est une jeune fille dont la mère est sur le point de mourir, qui se retrouve confrontée à un père qui va tout faire pour ne pas qu'elle hérite de sa fortune. Au-delà de l'argent, c'est une histoire de domination et de pouvoir masculin, de pouvoir paternel, de patriarcat, au fond.
Alors, on est vraiment à la limite d'un rapport, je dirais pas incestueux, mais presque incestuel. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas d'ambiguïté, je dirais, sexuelle avec sa fille, en tout cas pas dans le film, et moi je ne l'ai pas trouvé non plus dans le livre, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle lui appartient. Et c'est pour ça que ça participe de l'avarice, c'est-à-dire qu'il ne veut pas la marier, parce qu'il ne veut pas la doter. Donc c'est perdre de l'argent, c'est donner de l'argent à quelqu'un. Mais surtout, il ne veut pas qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre. Et en fait, toute la dramaturgie du film, elle démarre vraiment quand il se rend compte que sa fille a un intérêt pour quelqu'un d'autre. Alors que jusque-là, il lui a interdit absolument le commerce avec quiconque. Et c'est à ce moment-là que ça prend une ampleur.
Justement, la modernité de Balzac qu'on peut redécouvrir dans ce film, c'est la place qu'il accorde aux femmes dans son œuvre de manière plus générale. Est-ce qu'il est le premier à montrer leurs conditions et surtout à dénoncer cette condition ?
Moi, ce que je trouve assez extraordinaire chez Balzac, c'est qu'il célèbre les femmes dans son œuvre et la pauvreté de leurs conditions. Et en même temps, il rend les hommes généralement assez ridicules. Il arrive à montrer à quel point, avec cette comédie humaine, hein, que c'est l'ensemble de son œuvre, c'est pas uniquement Eugénie Grandet, à quel point les hommes sont complètement perturbés par leur manigance et cette façon qu'ils ont finalement de passer à côté des femmes. Et il considère, il le dit, que pour lui, l'avenir de l'homme, c'est la femme.
Il a construit, on parle de cathédrale de papier avec la comédie humaine, il s'est véritablement, au sens propre, tué à la tâche en écrivant. Est-ce que vous, vous êtes à la fois cinéaste et écrivain aussi, Marc Dugain, est-ce que vous comprenez, justement, vous réalisez ce qu'il a fait et le fait qu'il sacrifie même sa santé ?
Alors moi, ce que j'essaye de faire par rapport à lui, c'est de boire moins de café.
C'est ça qui l'a tué.
Je crois que c'est ça qui l'a tué. Ouais. C'est le café. Il buvait, je crois, une trentaine de tasses de café par jour. Ouais, ce qui est absolument.
Bon. Et il avait un embonpoint que vous n'avez pas non plus.
Il est mort très jeune. Il avait 50 ans. 50 ans. Il est né en 99 et il est mort en 1850. Donc oui, il avait 50-51 ans. Mais il s'est vraiment tué à la tâche parce qu'il écrivait. Il le raconte d'ailleurs sur Eugénie Grandet. Il écrit à une de ses maîtresses et lui dit « J'ai écrit 17 heures par jour depuis une semaine. » Et alors là, c'est vrai que je travaille beaucoup parce que j'ai le cinéma, j'ai la littérature, et puis je produis des films en plus, donc ça fait beaucoup de travail. Mais là, je suis quand même assez... je suis ébahi par cette capacité. Parce que c'est très dur. En fait, c'est pas tant le temps passé à écrire. C'est très difficile, moi, je trouve, au-delà de quelques heures, d'écrire quelque chose de vraiment intéressant. C'est qu'à un moment, ça s'étiole.
Moi, je le café, Marguerite, le café.
Voilà, il faudrait le café, ou alors peut-être d'autres substances que je ne soupçonne pas.
En tout cas, vous êtes un bourreau de travail entre littérature et vos livres, et puis ce film. Merci beaucoup, Marc Dugain. Je rappelle votre film Eugénie Grandet, adapté du roman de Balzac et qui est récemment sorti au cinéma.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais s'écraser. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Eh oui, aujourd'hui, Clémentine, ils se sont bien écrasés. Vous nous parlez des pilotes qui se sont portés volontaires pour faire exploser leur avion sur les bateaux américains pendant la Seconde Guerre mondiale. On les appelle les kamikazes.
Les kamikazes ou kamikazés, oui, eux ont fait de leur vie une véritable tragédie. Alors, selon la légende, en 1281, un ouragan providentiel disperse l'immense flotte mongole qui s'apprêtait à envahir le Japon. L'archipel est sauvé, ce vent divin qui a dispersé les troupes de ce dit kamikaze en japonais. En fait, devant la puissance de la flotte américaine massée au large des Philippines, dans le Pacifique, les Japonais, qui pendant longtemps, il faut le savoir, avaient refusé l'idée. Ils trouvaient ça, comme tout le monde, comme nous, ça, c'est quand même une idée assez révoltante qu'on puisse envoyer des pilotes s'écraser sur des bâtiments. Et ils ont fini par s'y résoudre, parce que quand ils ont vu l'immense, innombrable flotte de bâtiments américains amassés dans les Philippines, ils se sont dit qu'ils n'avaient pas trop le choix. Et surtout, ils avaient constaté qu'avec des bombardements depuis des avions, ça donnait à peu près 10% de réussite. Et avec les missions suicides, ils en escomptaient 30%. Ils se sont dit, on va être beaucoup plus efficaces comme ça. Et ce qui va finalement les convaincre, c'est le sacrifice du contre-amiral Harima. Le 15 octobre 40 devant ses subordonnés absolument médusés, il arrache les décorations de son uniforme, il s'installe aux commandes d'un chasseur 052 et il va jeter son appareil sur le porte-avions USS Franklin qu'il manque de peu. Et là, on se dit, ben, effectivement, c'est très efficace. Alors, 10 jours plus tard, les kamikazes apparaissent officiellement au cours de la bataille du golfe de Leyte et ils coulent une quarantaine de navires américains et en endommagent une centaine. C'est absolument effrayant. C'est super efficace et tellement effrayant que l'armée américaine va commencer par mettre l'embargo sur l'info pour ne pas démoraliser l'opinion américaine. À partir de l'automne 44, ce mot kamikaze, kamikaze, est utilisé en japonais jusqu'à présent comme dans le sens intervention divine, va désigner ces escadrilles, ces pilotes qui feront un voyage sans retour et on constitue différentes escadrilles. Ça va enflammer littéralement l'opinion publique au Japon. Ça nous fait absolument froid dans le dos, mais ça suscite un enthousiasme incroyable, un enthousiasme qui est soigneusement entretenu par la hiérarchie militaire japonaise. Les candidats au suicide sont, pour ainsi dire, déifiés de leur vivant et on verse des pensions très importantes à leurs descendants. Ils passent par tout un cérémonial. Alors, selon le corps d'armée auquel ils appartiennent, la marine ou l'armée impériale, ils se revêtent de robes noires ou blanches, agrémentées d'une fleur de cerisier ou d'un dragon, purifiées par l'invocation des dieux, la tête soigneusement rasée. Et ils rejoignaient les unités spéciales de kamikaze après un bain de foule. Mais ça, c'était au départ, c'est des grandes cérémonies, c'est très très codifié. Et puis au bout d'un moment, au début, on les prévenait 2 jours avant qu'ils allaient mourir 2 jours plus tard. Vers la fin, c'est la veille. On leur dit, bon ben ça y est, c'est pour demain. Mais dites-vous bien une chose sidérante, c'est que les volontaires étaient 10 fois plus nombreux que les avions disponibles. Tout le monde voulait y aller. On va leur donner une formation éclair en 7 jours.
Il y en a qui ont dû se rater et tomber à côté de...
Bien sûr, ça a souvent raté. Évidemment, on leur apprend pas l'atterrissage. Hein. Ils sont pas censés atterrir. Il faut qu'ils paient les commandes et puis c'est tout. Alors, chose très intéressante dans le rituel des kamikazes, avant de partir en mission, ils cousent dans leur ceinture 2 pièces de 5 sen. Parce qu'en japonais, 4 sen se disait phonétiquement comme le mot mort. Donc avoir 5 sen dans sa poche, dans sa ceinture, c'est aller au-delà de la mort. De part et d'autre de leur ceinture sont écrits des mots qui évoquent l'attaque et la destruction. Ils se nouent autour de la tête l'écharpe blanche frappée du soleil levant, qui est le signe de ceux qui vont mourir. Et on récite un tanka, un poème d'adieu. Les kamikazes ont interdiction d'emporter leur sabre dans l'avion, car il pourrait détériorer le gyroscope et gêner le pilotage. Et puis, dernière formalité, bien sûr, pour se donner du courage, le fameux cri de guerre, Tenno Eikai Banzai, longue vie à l'empereur. Il y a aussi, on leur donne aussi un conseil vraiment très appuyé, c'est qu'il faut qu'ils gardent les yeux ouverts jusqu'à la fin, pour surtout ne pas perdre la direction, l'objectif de vue. Alors la plus grosse attaque de kamikaze, elle aura lieu pendant la bataille d'Okinawa. Plus de 400 avions suicides, ainsi que les premiers Oka. Ça répond à votre question. Le Oka, c'est une sorte d'avion miniature qui est propulsé jusqu'à 1000 km/h et qui porte dans son nez plus d'une tonne d'explosifs. Une fois que vous êtes enfermé là-dedans, vous n'avez plus aucun moyen de sortir ou de changer d'avis. Il y a 5 minutes entre le largage et la percussion contre le bateau. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes foutu. C'est vraiment la mort. Donc, à Okinawa, il y a quand même 20 navires coulés, 200 navires endommagés à des degrés divers. Et la toute dernière, l'ultime mission kamikaze de la guerre, a lieu le 9 août 1945, jour même du lancement de la bombe atomique sur Nagasaki. Hiroshima avait été détruite 3 jours avant. Ce baroud d'honneur des kamikazes est mené par leur grand chef, l'amiral Ugaki. La trentaine de pilotes qui l'accompagnent ont joué au dé l'honneur de participer à cette mission. Et Ugaki va s'écraser sur un porte-avions, d'ailleurs sans faire trop de dégâts. Dans les débris, on a retrouvé son sabre.
Eh oui, c'est vraiment une autre culture.
Ouais.
Merci beaucoup, Clémentine Portier. Quelle batte, vous restez avec nous ? Le quiz arrive. Avec des questions très intéressantes aujourd'hui, très surprenantes. Il sera question notamment de télépathie.
Ah bon.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'heure du quiz, chers amis, un moment de l'émission qui hésite toujours.
Entre l'humour et la tristesse.
Ah oui, l'humour des bonnes questions, la tristesse des mauvaises réponses, tel pourrait être le slogan de Bern to be alive. Stéphane, première question. Il paraît qu'il y en a beaucoup dans les médias, ma source c'est mon beau-frère, je veux bien sûr parler des francs-maçons. Dans la musique aussi, d'ailleurs, Mozart était franc-maçon, vrai ou faux ?
Alors on dit que dans ses opéras, il y a des signes francs-maçons.
Des signes francs-maçons,
oui,
chez Mozart.
C'est certain. Je ne suis pas un spécialiste de qui il est, qui n'est pas. Hein,
mais quelle serait votre réponse alors? Oui, est-ce que Mozart était franc-maçon, vrai ou faux?
Écoutez, oui, sans doute, parce qu'il y a des signes francs-maçons dans ces opéras.
Vous avez gagné.
Et c'est vrai. Et ce, les sept dernières années de sa vie, Mozart a été admis comme apprenti en 1784, puis compagnon l'année suivante. D'ailleurs, dans la flûte enchantée, Stéphane, voilà, Zane, ça, les initiés reconnaîtront une rythmique composée d'une brève et deux longues, ce qui est un signe correspondant au grade de compagnon dans la franc-maçonnerie. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Je ne vous apprends rien, Clémentine. Le Panzerkampfwagen... Je ne sais pas comment on dit 8 en allemand, mais quelque chose.
Art.
Ah oui, comme Arte. A été le tank le plus lourd jamais construit de l'histoire. Ça, vous le saviez, évidemment. On le doit à Ferdinand Porsche, qui l'a proposé à Hitler en juin 1942. Maus veut dire souris. Mais le premier prototype était appelé Mammouth. Vrai ou faux?
Bah écoutez, c'est tout à fait crédible que dans l'intéressante Panzer Division d'Hitler, on ait voulu donner des petits sobriquets à certains prototypes. Ça me plaît pas trop comme idée, mais je sais pas. Je trouve que c'est Mammouth, c'est pas bien, ça va pas un char d'assaut.
Alors Mammouth, que Mouse, une souris, oui.
La souris.
Bizarre.
Non, ce que vous me dites, c'est que le Maus veut dire... Le nom du tank, c'est quoi? C'est Mammouth, c'est ça la question.
Je vous demande si le nom du prototype avant le prototype Maus existait. Mammouth. Est-ce que le prototype s'appelait Mammouth? Vrai ou fou?
Ça a pu être qu'un prototype. Peut-être qu'il n'a jamais...
Le Mammouth.
Il n'est jamais devenu une souris.
Le prototype s'appelait Mammouth.
Le Mammouth a-t-il accouché d'une souris, en
voilà,
gros?
Voilà, en gros c'est ça.
Moi, je trouve que c'est plus rigolo d'appeler un énorme char la souris, mais c'était pas une époque où on cherchait spécialement beaucoup à faire de l'humour. Disons que oui, le Mammouth a pu exister.
Vous avez gagné.
Le Mammouth a existé, mais c'était un prototype. Et comme il n'avançait pas à plus de 13 km/h, ce qui n'est pas rapide, il a été abandonné. Le poids de ce tank, eh bien écoutez, en fin d'émission, la lutte finale, ce sera l'objet d'une question.
Il devait en plus consommer énormément de carburant, ce qui était quand même aussi un écueil majeur.
Ça, c'est un écueil.
Je ne sais pas, Stéphane, si vous portez un appareil de correction auditive, ça ne nous regarde pas.
Sachez... Si ça vous regarde, parce que vous posez la question.
Sachez qu'en 1934, Rudolf Goldschmidt a déposé un brevet d'un appareil de correction auditive. Fait étonnant, il l'a fait avec une autre personne célèbre, un certain Albert Einstein. Vrai ou faux?
Je crois que c'est vrai. Je crois qu'Albert Einstein avait des appareils puisque il avait... Je ne sais pas si maintenant, s'il y a un lien de cause à effet. Mm-hmm. Je sais qu'Albert Einstein était...
Lui emporté.
Emporté, il était dur de la feuille.
Et il l'aurait lui-même inventé.
Non, il ne l'a pas inventé, mais on... Oh, c'est tentant parce qu'ils étaient tous les deux sans doute durs la feuille. Ils se sont dit, tiens, on va entendre comme ça.
Vous croyez qu'Einstein avait le temps de s'occuper de prothèses auditives? Est-ce qu'il avait la compétence aussi? Est-ce qu'il a travaillé sur des systèmes de miniaturisation
On avait bien des cornets avant. Hein.
Oui, comme le professeur Tournesol. Oui.
Je vais dire oui.
Vous dites
je
oui.
Je prends des risques.
Et vous avez gagné.
L'audace, ça paye, Stéphane. Ouais. C'est une bonne réponse. Sachez qu'Albert Einstein est à l'origine de quelques inventions étonnantes. Il a par exemple breveté en 1930 un réfrigérateur.
Ah,
particularité de ce frigo, il n'avait pas besoin d'alimentation électrique. Aujourd'hui, tous les réfrigérateurs ont toujours une alimentation électrique. Enfin, je ne connais pas de modèle sans électricité. Comme quoi, il avait vraiment un coup d'avance, le Albert. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Le 2 et le 4 août 1964, des torpilleurs nord-vietnamiens et deux destroyers américains échangent des tirs de canon. Ce n'est qu'en 2005 qu'un rapport de la NSA rendu public assure que ce sont les Américains qui ont fait feu les premiers. Ces incidents serviront de prétexte à la guerre du Vietnam. L'amiral, commandant des forces navales américaines, était le père de Jim Morrison. Vrai ou faux?
Dis donc, ça en fait des propositions. Hein.
Non, mais là, il n'y en a qu'une.
Il y en a qu'une.
Est-ce que l'amiral commandant ces forces navales américaines qui ont déclenché la guerre du Vietnam était le père de Jim Morrison?
Mais déjà... Ah, de Jim Morrison.
Oui,
oui, bien sûr, des Doors. Ça serait rigolo quand on sait qui était Jim Morrison et comment il a terminé là, en overdose à Paris. Oui, son père était un général américain, mais qui est foiré. Après tout, regardez l'histoire des armes de destruction massive avec l'Irak. C'était bien complètement bidon aussi. C'est-à-dire qu'un pays saisisse ou crée le prétexte à attaquer, ça serait pas la première ni la dernière fois. Mais la question, c'est est-ce que Jim Morrison pouvait avoir un père ? Oui, je trouve ça vraiment, je trouve que ça serait très beau, très étrange, très étonnant, très inattendu. Donc je réponds oui.
Elle répond oui.
Et c'est bravo. Une bonne réponse. Bravo, George Stephen Morrison. C'était le papa. Effectivement, Jim Morrison est l'aîné d'une famille de trois enfants. Il fera partie des artistes qui vont s'engager de façon virulente contre la guerre du Vietnam. Question numéro 5. Elle va vous départager.
Aimez, hein, vous aimez quand on...
Ça m'excite, cette question numéro 5 de rapidité. Wolf Messing était un télépathe étonnant, né à Varsovie en 1899, à l'époque où la Pologne faisait partie de l'Empire russe. Staline l'a fait travailler pour lui en lui demandant des prédictions. Quelle épreuve a dû réussir Wolf avant d'être embauché par Staline ? Trois propositions. Il a dû rejoindre Staline au Kremlin sans aucun papier l'y autorisant. Il a dû donner les jours précis où il allait neiger pendant trois mois. Ou il a dû donner à Staline les noms des futures personnes que Staline lui-même voulait assassiner.
Trois.
Non.
2.
1.
Bonne réponse de Stéphane Merne. Il a dû. Non.
Prédire les jours de neige.
Vous avez dit quoi? Je m'en ai
dit. J'ai dit non. J'ai dit d'abord 3, ensuite j'ai dit 1. Et
moi,
Stéphane
j'ai dit
a dit 2.
3 et après 2.
Donc Stéphane, vous avez eu tout faux. Et Clémentine a fini par donner la bonne réponse. C'est, il a dû rejoindre Staline au Kremlin sans papier. Il a réussi à rejoindre Staline sans encombre. Les différents gardiens qu'il avait croisés ne se souvenaient pas de l'avoir vu. Wolf Messing pratiquait l'hypnose avec talent. Drôle d'histoire.
Mais vous, sans papier, vous avez du mal. Hein.
sans papier, on me renvoie en Suisse. Bravo, en tout cas. À vous, Clémentine. Encore une belle victoire dans le quiz. Stéphane, vous enchaînez un petit peu les défaites. Là,
oh, vous plaisantez. Attendez, passons à la dernière question. Mais ce qui est important, c'est les questions individuelles.
Bien sûr, on est plutôt brillant, tout à fait. Là, récemment, on a été plutôt bon.
On montre quand même qu'on touche notre bille en histoire.
Que vous êtes de vrais historiens. Bravo à tous les deux.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire, mais sans se la raconter.
Et gratuitement, Stéphane, quand on sait ce que vous facturez certaines prestations, notamment pour les inaugurations, mais il faut que nos auditeurs se rendent compte de la chance qu'ils ont de pouvoir passer un moment avec vous sans débourser un centime.
Mais non, mais c'est gratuit, Mathieu.
C'est ce que je dis. Mais vous savez, ça c'est la comédie humaine, Stéphane.
Eh oui. Après Honoré de Balzac, je vous raconte le destin d'un cinéaste qui a su ausculter la bourgeoisie française avec drôlerie et férocité, Monsieur Claude Chabrol. Et puis de votre côté, Mathieu, lui aussi, il a écrit sa comédie humaine, une comédie qui continue. C'est Michel Houellebecq.
Ce qui est bien avec cette émission, c'est que je ne donne pas du tout l'image d'un mec dont les goûts sont façonnés par les critiques de Télérama et donc complètement mainstream, puisque oui, après vous avoir parlé de Sylvain Tesson, que j'adore, je vous parle de Michel Houellebecq, que j'adore aussi, comme quelques dizaines de millions de Français. Sauf que pour moi, il n'est pas seulement un grand écrivain, il est aussi un de nos meilleurs humoristes. J'essaierai de vous le démontrer.
Ah oui ? Eh bien, eux aussi, Mathieu, aussi, entre le sérieux et l'humour, ce sont nos fidèles chroniqueurs. David Castel-Lopez, qui remonte aux origines d'une invention, aujourd'hui, ça tombe bien, it's tea time. C'est pour remonter aux origines
parfait.
Du thé.
Les origines du thé, je voulais dire, je m'y connais un petit peu. Voilà.
Et puis avec Olivier Pouls, on raconte l'histoire d'un plat.
Toujours de la ratatouille, on raconte l'histoire de toutes les ratatouilles.
Mais ça s'appelle, ça porte des noms différents et on l'assaisonne autrement, c'est la caponata italienne.
Si Astérix était allé en Sicile, il aurait rapporté de la caponata. Mais ce n'est pas de la ratatouille, hein, la caponata, vous allez voir. Non, il y a d'autres ingrédients qui ne sont pas du tout dans la ratatouille niçoise. Un exemple, il y a des capres, par exemple, dans la caponata.
Oui, j'adore les capres.
Il n'y a pas de capres dans la ratatouille.
C'est dommage.
Oui.
Et c'est pas une caponata, c'est pas grave.
Enfin, les amis, une fois qu'on aura pris le thé, qu'on se sera sustenté avec la caponata de Pouls, l'heure viendra d'enterrer le calumet de la paix. La lutte finale, notre quiz fratricide, démarrera. Et croyez-moi, Little Big Horn à côté, ce sera une bataille de Playmobil dans un évier. Mais tout de suite, partons à la rencontre de notre deuxième personnage à avoir inventé sa propre comédie humaine. Le beau Serge, les bonnes femmes, la femme infidèle, Docteur Popol, Violette Nozière, Madame Bovary, l'inspecteur Lavardin, la fille coupée en deux. Une galerie de personnages qui ont fait leur cinéma, et surtout le sien. Stéphane Bern nous raconte le cinéaste Claude Chabrol.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Le beau Serge, les bonnes femmes, la femme infidèle, Docteur Popol, Violette Nozière, Madame Bovary, l'inspecteur Lavardin, la fille coupée en deux. Une galerie de personnages qui ont fait leur cinéma et surtout le sien. Stéphane Bern nous raconte le cinéaste qui a imaginé sa propre comédie humaine, Claude Chabrol.
Lorsqu'on pense à Claude Chabrol, on revoit d'abord cette mine réjouie et malicieuse qui faisait sa marque, celle d'un homme qui n'était jamais le dernier à se mettre à table pour avaler de bons petits plats et siffler quelques belles bouteilles de vin avant d'allumer sa pipe après le café. Il n'y a rien de faux là-dedans. Chabrol était à juste titre réputé pour être un bon vivant. Mais ce n'était qu'une des facettes du personnage. Derrière, il y a une œuvre complexe et dense. Chabrol, c'est 57 films de cinéma et 25 de télévision en 50 ans de carrière. Une vaste fresque qui lorgne, sans s'en cacher, du côté de Balzac dont nous parlions tout à l'heure. Chabrol partage bien des choses avec l'auteur de la comédie humaine, et une surtout. L'envie de soulever le couvercle de la société de son temps pour regarder ce qui mijote dans la marmite et qui ne sent pas toujours très bon. Balzac, c'était la Restauration et la Monarchie de Juillet. Chabrol, c'est la France de l'après-45, de Pompidou, de Giscard et de Mitterrand. C'est 50 ans d'un pays dont il s'est amusé à démonter les apparences avec une précision d'entomologiste. Quelque chose qui relève de la dissection, mieux encore, de la vivisection. Chabrol s'acharne à traquer ce que les autres veulent dissimuler, quitte à les pourchasser dans les recoins les plus sombres. Mais lorsqu'on cherche à s'intéresser à ce que son prochain peut avoir à cacher, encore faut-il trouver son terrain de jeu, son univers de prédilection. Pour Chabrol, c'était presque tout trouvé, ce sera la bourgeoisie. Cette bourgeoisie dont il était lui-même issu, lui le fils de pharmacien né à Paris en 1930. Pourquoi la bourgeoisie ? D'abord donc parce que c'est un monde qui lui est familier. Ensuite parce que Chabrol juge que c'est dans cette classe sociale qu'il peut trouver le paroxysme de ce théâtre d'ombre, de faux-semblants et de conventions étriquées. Il n'est pas le premier. Balzac donc, mais aussi Flaubert ou Agatha Christie avaient déjà flairé le parfum du scandale et du crime derrière les bonnes manières. Mais c'était sur le papier. Là, Chabrol va passer sa vie à creuser ce sillon à l'écran, porté par une érudition impressionnante et un amour profond d'un art qu'il connaît par cœur. Très jeune, Claude Chabrol choisit ses modèles. Fritz Lang, pour sa manière de décrire les engrenages qui broient l'existence de ses personnages. Howard Hawks, pour le sens du rythme et la simplicité de ses plans. Jean Renoir, pour la sensualité qui ressort de l'image et pour la place qu'il accorde aux acteurs. Et puis Hitchcock, évidemment. Ce n'est pas un hasard si Chabrol a été son premier biographe en 1957, à une époque où le maître du suspense est loin de faire l'unanimité chez les critiques. Chabrol partage bien des choses avec Hitchcock. L'humour noir, le goût pour l'intrigue policière et la même analyse un rien amer de la nature humaine. Chabrol est fasciné par le mensonge et l'hypocrisie. Lui qui n'a jamais caché ses convictions d'homme de gauche se retrouve sans doute dans une phrase célèbre de Balzac. Derrière chaque grande fortune se cache un crime. Même si Claude Chabrol s'est toujours défendu de faire des films politiques, le portrait qu'il trace de la bourgeoisie est d'une cruauté sans pareille. Et le message est parfois plus affirmé, comme dans La Cérémonie, un film inspiré de l'histoire des sœurs Papin, ces deux bonnes qui avaient assassiné leur maîtresse en 1933. Chez Chabrol, c'est toute une famille de grands bourgeois qui trépassent en Bretagne, massacrés sur fond d'opéra par leurs domestiques et la postière, interprété par Sandrine Bonnaire et Isabelle Huppert. Huppert, justement, est l'une de ses actrices fétiches. Il en fera Violette Nozière, l'empoisonneuse parricide, puis une avorteuse collabo dans une affaire de femmes, et bien sûr, Emma Bovary en 1991, dans un film qui sonne comme une évidence, tant il y a de points communs entre l'univers de Flaubert et celui de Chabrol. Mais il y en a bien d'autres, toute une tribu de fidèles qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière. Stéphane Audran, sa compagne pendant 20 ans, Michel Bouquet, Benoît Magimel ou Jean-Yann, à qui Chabrol a offert deux de ses plus beaux rôles dans « Que la bête meure » ou encore « Le boucher », sorti en 1969, dans lequel il est Popol, le boucher du village et un assassin sadique.
Est-ce que vous aimez la viande ?
Oui.
Non, je dis ça parce que des fois, si je tombe sur une belle bête, je pourrais vous amener des bons morceaux. Des escalopes ou des rôtis, des morceaux du boucher.
Alors,
vous savez, il y a des bêtes qui sont meilleures que d'autres, nous. On le sait.
Oh là là, mais vous pensez c'est un rêve. C'est un rêve d'avoir un boucher qui vous choisisse la viande.
Si bien des films de Chabrol tournent autour d'un crime, les cadavres qu'il sème à longueur de plan ne sont que le prétexte de quelque chose de plus subtil et de plus vénéneux. La bourgeoisie parisienne lui sert parfois de cadre, mais c'est aussi pour ça qu'il privilégie la bourgeoisie de province qui le fascine, avec ses secrets de famille, ses dynasties de notables plus ou moins incestueuses, ses jeux de théâtre et ses conventions qui cachent des haines et des rancunes, des gouffres de duplicité derrière le vernis des apparences qu'on sauvegarde à tout prix. Pour Chabrol, en province, tout le monde sait tout sur tout le monde, mais chacun regarde ailleurs jusqu'à l'explosion. Le meurtre qui remet enfin de la réalité au milieu des ombres et des mensonges. C'est le cas dans Le Boucher que l'on vient d'entendre, où la petite vie tranquille d'un village du Périgord éclate en morceaux lorsqu'on commence à retrouver des femmes égorgées. C'est aussi le cas dans La Fleur du Mal, avec Nathalie Baye, Benoît Magimel et la merveilleuse Suzanne Flon, dans un sommet d'hypocrisie sociale sur fond de crimes oubliés. Film après film, Chabrol s'attache à tracer le portrait d'une classe sociale, mais pas seulement. Lui qui a lancé la nouvelle vague avec son premier film en 1957, Le Beau Serge, ne veut pas révolutionner le langage du cinéma comme un François Truffaut. Derrière un classicisme formel, du moins en apparence, il y a une volonté de peindre toute une nation pendant des décennies. Et au-delà de la satire, le message de Chabrol cache une couche de plus, plus ambiguë encore. En filmant cet univers feutré où l'on prend le thé dans le salon pendant qu'on se trucide à la cuisine, Chabrol provoque aussi le spectateur en lui montrant que le meurtrier peut être n'importe qui, lui compris. Du patriarche respectable en passant par la bonne ou le gendre idéal, le cinéaste semble dire que tout le monde peut tuer par vengeance, pour l'argent ou pour échapper à l'ennui et aux mensonges impunis. Et ce qui est si dérangeant, c'est que Chabrol s'acharne à montrer qu'il serait trop simple de croire que les meurtriers sont des monstres. Il y a bien une notion de bien et de mal, oui, mais le bien n'est jamais vraiment solide et le mal n'est pas toujours là où on le pense. Et dans les contes noirs de Claude Chabrol, il y a une question plus grave. Le portrait qu'il a patiemment tracé jusqu'à sa mort en 2010, c'est aussi le nôtre, en tout cas celui de notre société et de ses propres ambiguïtés.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Claude Chabrol, nous sommes avec celui qui lui consacre une très riche biographie. Bonjour Antoine Debac.
Bonjour.
Bonjour Antoine Debac, vous avez décidé d'écrire sur tous les pionniers de la nouvelle vague. Après Truffaut, Godard et Romère, vous signez là une biographie sur Chabrol qui vient tout juste de paraître aux éditions Stock. Je le disais dans mon récit, Chabrol est considéré comme celui qui a lancé la nouvelle vague avec Le Beau Serge, son premier film réalisé en 1957. Est-ce qu'il avait conscience d'instaurer un nouveau genre, une nouvelle manière de faire du cinéma?
Peut-être pas une nouvelle manière de faire du cinéma, mais il avait conscience de faire du cinéma différemment. On est dans une époque où le cinéma se fait en studio, avec souvent des grandes vedettes comme Gabin, comme d'autres de ce genre-là. Et Chabrol va décider de sortir du studio, va décider de tourner avec des jeunes gens qui sont ses amis, comme Jean-Claude Brialy, Gérard Blin, Bernadette Lafont. Et il décide de tourner des histoires qui le concernent très directement. En tout cas, qu'il ne manque pas d'écrire lui-même. Ces trois choses-là font que Chabrol va contribuer à changer le cinéma avec toute la bande qui l'entoure. Hein. Ces jeunes gens des Cahiers du cinéma qui sont tous en train de passer au cinéma. Et il sait qu'il est suivi, qu'il est accompagné, qu'il y a une force, je dirais, un peu collective qui l'entoure.
Quand on parle de nouvelle vague, si je ne m'abuse, on ne pense pas à Chabrol. Ce n'est pas le premier nom qui vient.
Comment
vous l'expliquez ça, alors que c'est le premier film qui appartient à ce courant, en tout cas, historiquement?
Absolument, je pense que c'est quelque chose qui... Les films de Chabrol, les deux premiers films de Chabrol, donc, qui sont les deux premiers qui sortent effectivement de ce courant, Le Beau Serge et Les Cousins, vont être un peu recouverts par Les 400 coups de Truffaut, et puis beaucoup par À bout de souffle de Godard, qui va être un peu le manifeste, un an après, le manifeste de la nouvelle vague. Chabrol a été vraiment la première petite, je dirais presque vedette de la nouvelle vague. Hein. Il est célèbre dans tout Paris, tout d'un coup, de façon très très... Il faut dire que ses deux premiers films, Le Beau Serge et Les Cousins, vont sortir à 3 mois d'écart, vraiment quasiment coup sur coup. Et c'est un véritable choc quand sortent ces deux films. La critique prend plutôt bien ces films, ce qui est évidemment important pour Chabrol et pour lancer sa carrière.
Dans votre biographie, vous écrivez que Chabrol est un cinéaste à la fois célèbre et méconnu. Qu'est-ce que vous avez découvert de plus méconnu sur lui ? Vous le racontez qu'il se cachait derrière trois masques.
Oui, Chabrol était quelqu'un qui a inventé, je dirais, qui a mis en avant un personnage, celui que vous avez très bien décrit, un personnage qui est le bon vivant, joyeux de rire, qui a, voilà, s'est réparti à la fois drôle et sarcastique. Après, je pense que un autre Chabrol peut être mis en avant, et ce que j'essaye de faire, c'est le Chabrol qui est à la fois plus secret, et puis traque tout ce qui pourrait être enfoui ou tout ce qui pourrait être masqué dans la société française de son temps. Et donc là, Chabrol fait preuve parfois d'une très grande violence. Hein, ses films, on l'oublie, hein, sont souvent occupés par des meurtriers et peut-être plus encore par des meurtrières, des femmes meurtrières, hein, qui ouvrent comme ça le couvercle, et ce qui sort de la société, c'est quand même quelque chose de très violent. À la fois, cela est compris et reconnu. Chabrol n'est pas du tout un inconnu, mais il n'a jamais été, jamais entré au Panthéon, par exemple, du cinéma français. Il n'a jamais eu un seul César. Il n'a jamais eu, par exemple, non plus un prix de Palme d'Or ou de mise en scène ou un prix personnel au Festival de Cannes.
Est-ce qu'il en souffrait de ça ?
Alors, il en souffrait sans doute, mais il y avait aussi ce personnage qui s'en sortait par des pirouettes, oui, par des rires. Il en rigolait, oui, il en rigolait. Et puis, je pense que Chabrol était absolument intimement convaincu de son propre génie. C'est un c'est quelqu'un qui était extrêmement sûr de son art, notamment d'être un grand metteur en scène. Il a toujours été extrêmement caustique, voire sarcastique avec les honneurs. Hein. Il a toujours refusé les honneurs qu'on pouvait lui proposer de la Légion d'honneur à ce genre de médaille. C'était quelque chose qu'il en riait beaucoup.
Avec Stéphane, on a fait un parallèle pour cette émission entre Balzac et Chabrol. Est-ce que lui-même, il aurait pu faire ce parallèle ? C'est-à-dire que lui-même, il avait cette vocation à faire sa comédie humaine et il construisait son œuvre comme ça ? Ou c'est a posteriori qu'on voit ça comme ça ?
Non, je pense que chez Chabrol, il y a quelque chose de très conscient de réaliser, film après film, une sorte de comédie humaine. C'est quelque chose qui apparaît, je dirais, de façon publique. Et il le dit dans les entretiens au moment où, au début des années 70, il enchaîne ses chefs-d'œuvre autour de Que la bête meurt, Le boucher, La femme infidèle, où là, il est vraiment dans cette sorte de chronique extrêmement à la fois cruelle et caustique des habitudes bourgeoises autour de Stéphane Audran et de Michel Bouquet. Voilà. Mais je pense que le grand amour de Chabrol, c'est Flaubert, sans doute, mais son ambition, elle est véritablement balzacienne.
Oui. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la place des femmes et de leurs conditions sous la monarchie de Juillet dans l'œuvre de Balzac. Chez Chabrol aussi, la femme occupe un très grand rôle. Vous écrivez qu'il jauge et rehausse la place des femmes au fur et à mesure qu'il construit ce qui est peut-être le principal fil rouge de son cinéma, cette figure féminine qui échappe, révèle, se retranche de ces Hélène incarnées par Stéphane Audran au criminel joué par Isabelle Huppert, entrant de plus en plus ouvertement en guerre contre la société des hommes, plus puissant mais plus faible qu'elle. Les femmes ont mis du temps donc à s'imposer dans ces films, mais à partir de ce moment-là, elles étaient omniprésentes et elles sont emblématiques. D'ailleurs, sont les femmes de sa vie, si je puis dire.
Oui, c'est vrai que la rencontre avec Stéphane Audran a été essentielle, puis la rencontre, qui n'est pas une rencontre amoureuse, mais professionnelle avec Isabelle Huppert, est décisive pour Chabrol. Ils ont des films comme Les Cousins ou comme Les Bonnes Femmes, qui portent à la fois bien et mal son nom, ont été reçus de façon comme des sortes de pamphlets misogynes. Et Chabrol a été, alors là, il a été assez blessé par ça. Et je pense que ça a joué dans son désir de placer la femme au centre du film. Alors, c'est ce qu'il peut faire peu à peu grâce à Stéphane Audran, hein, qui va à la fois matériellement installé comme vedette du cinéma français. Tout d'un coup, ses films peuvent se faire autour de ce personnage, surtout quand il est en dialogue avec un homme comme Michel Bouquet. Et d'autre part, il y a quelque chose qui est une forme de féminisation du cinéma de Chabrol.
Merci beaucoup, Antoine Debacq, d'avoir démasqué Chabrol. Je rappelle votre livre Chabrol, qui vient de paraître dans la collection Biographie chez Stock.
Merci beaucoup.
Merci.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages qui ont inventé leur propre comédie humaine. Après Balzac et Chabrol, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, à 99% vrai, d'un écrivain qui fait son miel de notre comédie humaine actuelle. C'est Michel Houellebecq.
J'ai un son, chers auditeurs, que j'utilise assez souvent et qui est référencé dans notre base de données sous le joli titre de « Violon hongrois suicidaire ». Si je devais traduire musicalement la tonalité littéraire de l'œuvre de Michel Houellebecq, c'est probablement ce son que j'utiliserais spontanément, mais j'aurais tort. Car Michel Houellebecq, nonobstant une vision assez désespérée de l'être humain, c'est aussi un humour qui jaillit du plus profond de la noirceur, souvent quand on ne s'y attend pas, au détour par exemple d'une page sur la misère sexuelle. Alors, je ne vais pas vous citer les meilleures blagues de Houellebecq, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais celui qui s'aventure dans son œuvre sait qu'on y rit beaucoup, même si, bon, pas que. Hein, je redonne un petit coup de l'endroit pour vous livrer une citation, une seule, de Michel Houellebecq, car j'avais corné la page à l'époque tant elle m'avait scié. Rarement on aura aussi bien résumé la vie dans son ensemble. Je cite « Les hommes en général ne savent pas vivre. Ils n'ont aucune familiarité avec la vie, ils ne s'y sentent jamais tout à fait à leur aise. Aussi poursuivent-ils différents projets, plus ou moins ambitieux, plus ou moins grandioses, c'est selon. En général, bien entendu, ils échouent et parviennent à la conclusion qu'ils auraient mieux fait tout simplement de vivre. Mais en général aussi, il est trop tard. » Sérotonine, page 171, je vous ai prévenu, hein, puissant mais sombre, tel est Michel Houellebecq qui, je vous assure, sait aussi être marrant. Et c'est rare cette combinaison de désespérance et de drôlerie, à part David.
Quoi de plus réjouissant qu'une soirée qui se termine à l'hôpital?
Le seul autre que je connais comme ça, c'est donc Houellebecq. Peut-être l'écrivain français le plus important de ce début de siècle, un écrivain qui voit la vie comme une gigantesque endive cuite. C'est long, amer. Et il n'y a qu'en balançant un peu de sauce de temps en temps qu'on se dit que c'est supportable. Le capitalisme, le sexe, le capitalisme soumis au sexe, la consommation, la surconsommation, le tourisme, Michel auscule chaque pan de notre société et nous livre sa comédie humaine, qui est hélas aussi la nôtre. Vous avez fait ça, oui, hein, oui, je vous connais par cœur, David. Oui. Houellebecq, en outre, n'est pas un poseur. Hein. Il vit en cohérence avec ses écrits, c'est-à-dire en relatif misanthrope, loin des médias, des élites et de la haute. Même millionnaire, il habite toujours une tour du quartier des Olympiades dans le 13e arrondissement de Paris, au cœur du quartier chinois. Oui, non, là, merci. Non, là, c'est quand même un portrait de Houellebecq. Non, merci. Michel naît le 26 février 56 à Saint-Pierre, sur l'île de la Réunion, sous le nom de Michel Thomas. Et ça démarre mal pour Michou, qui est abandonné par son père et délaissé par sa mère, qui le refourgue à ses grands-parents en Algérie. De ses parents, évidemment, on est en Algérie. De ses parents défaillants, on ne sait quasiment rien, sauf que le papa était guide de haute montagne et la maman anesthésiste. Ah oui, et aussi qu'ils étaient militants communistes.
Quelle horreur!
Finalement, le petit Michel sera élevé en Seine-et-Marne par sa grand-mère paternelle, Henriette, très sympa, mais elle aussi communiste, Stéphane. Et le pseudo qu'il choisira plus tard est un hommage à cette mamie, puisque Houellebecq était son nom de jeune fille. À l'école, Michel est brillant. Il a devant lui toute tracée une carrière prestigieuse d'ingénieur, puisqu'en 75, il entre à l'Institut National Agronomique Paris-Grignon. Encore une fois, ça respire pas le Kamasutra. En 78, Michel est donc officiellement ingénieur agronome, ce qui l'excite finalement assez moyennement. Il se cherche, rencontre Michel Bulteau, directeur de la Nouvelle Revue de Paris, qui l'encourage dans ses tentatives d'écriture. Michel, pas encore Houellebecq, reprend alors des études dans le cinéma, cette fois à l'École Nationale Supérieure Louis Lumière. Il y a plus de meufs, c'est vrai, mais toujours pas de job. L'écriture non plus, ça décolle pas. Comme il faut bien bouffer, il devient adjoint administratif au service informatique de l'Assemblée Nationale. Alors là, tu peux mettre le violon hongrois, parce que là, c'est qui tout double. Quand tu finis adjoint administratif au service informatique de l'Assemblée nationale, soit tu ouvres le gaz, soit tu donnes tout pour enfin vivre de ta passion. Ce que fait Michel, qui reçoit en 92 le prix Tristan Tzara pour son recueil de poèmes La poursuite du bonheur. En 96, ça sera le fleur pour le sens du combat. Michel devient Houellebecq, se met en disponibilité de la fonction publique, tu m'étonnes. L'accueil critique de son premier roman, Extension du domaine de la lutte, est excellent. Les particules élémentaires, idem, la polémique en plus, et en plus ça fait vendre la polémique. Polémique qu'il va entretenir avec Plateforme en 2001, roman dans lequel il dissèque de manière à la fois jubilatoire et pathétique la mode du tourisme sexuel.
Ah, j'adore.
Le livre, hein, pas le tourisme sexuel, oui, pas, que Houellebecq décrit comme l'ultime remède aux souffrances de l'homme occidental, sans cesse brimé dans sa virilité.
Grave!
Oui, vous avez aimé vous aussi, c'est très bien. Mais pour entrer dans l'univers parfois extrêmement dérangeant de Houellebecq, rien de mieux que La carte et le territoire, prix Goncourt 2010 et satire réjouissante du marché de l'art contemporain. Vaut mieux commencer par ça que par Soumission, hein, le livre qui avait fait scandale en 2015, et d'autant plus qu'il était sorti le jour même des attentats de Charlie Hebdo, l'histoire de l'accession à l'Élysée du candidat d'un parti musulman. Stupéfait par la concomitance de son roman et de l'attentat, Michel, déjà pas très loquace en temps normal, restera sans voix. Nouvelle polémique, on se demande ce que Michou a voulu dire à travers ce livre. En France, on n'ose pas trop lui demander directement. Heureusement, il y a le Guardian. Et les Anglais, eux, ne prennent pas de pincettes. Michel Houellebecq, are you islamophobique? Michel Houellebecq, êtes-vous islamophobe? Sa réponse, oui, probablement. Mais le mot phobie signifie la peur, plus que la haine. Mystérieux, solitaire. Les seuls potins people concernant Michel Houellebecq sont liés à son mariage. Plus précisément, le troisième. Une sacrée soirée où, avec son épouse Queen Yun Lizis Lee, originaire de Shanghai, ils ont accueilli tous leurs amis. Alors là, c'est étonnant. Carla Bruni-Sarkozy, Jean-Louis Aubert, Alain Finkielkraut, Frédéric Becbédé et David Pujadas, qui s'est retrouvé sur scène, un micro à la main, à chanter la version karaoké de « Que je t'aime » de Johnny. Ça, c'est véridique, on a du mal à l'imaginer. Les autres détails de la soirée n'ont pas fuité. Certainement que Finkielkraut a craché dans les pains surprises et Becbédé pissé sur la pièce montée. Bref, chez les Houellebecq aussi, on sait s'amuser, parfois. Alors finalement, pas si plombant ce Michou, ne nous emballons pas en mai 2020, quand la France entière avait besoin d'entendre des paroles rassurantes après deux mois d'un premier confinement ferme et douloureux. Mich Mich donne sa première interview depuis des années et nous irradie de sa joie de vivre. Il dit « Nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un nouveau monde, ça sera le même en un peu pire ». Sinon, vraiment, lisez-le, je vous promets, c'est drôle.
Merci beaucoup, Mathieu. On sent que c'est véridique.
On sent que c'est...
Ça pourrait être vrai.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour.
Au revoir, personnages du jour. Oui, Stéphane, mais la comédie humaine continue avec deux personnages qu'on croirait sortis d'un roman, Pouls et Castello, qui remontent pour nous aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et alors, visiblement, votre quotidien, c'est la caponata, Olivier.
Oui, mon quotidien, en ce moment, pourquoi pas une petite caponata? On est en pleine saison des légumes.
On sait toujours pas ce que c'est.
Les légumes qui la composent, ben, vous allez le savoir dans un instant. C'est un plat italien, sicilien.
Bon, ça sera juste après la chronique de David Castello-Lopez, qui remonte aux origines d'un produit qu'on connaît mieux, le thé.
Je vais commencer cette chronique par une petite activité, si vous voulez bien.
Oh oui, j'adore.
J'ai dans la main quelques graines de thé que vous voyez ici. Regardez, elles sont minuscules. On dirait une sorte de gravier un peu verdâtre noir. Et j'ai aussi ici une tasse d'eau chaude, transparente. Et je vais mettre ces petites graines dans cette tasse. Et à la fin
décidément,
de ma chronique...
mettre la petite graine, c'est une obsession chez vous.
Oh, Mathieu,
le microscope.
Et je vais mettre ces petits grains de thé dans cette tasse. Et à la fin de ma chronique, on jettera de nouveau un coup d'œil à cette tasse. Vous êtes prêts? Je le fais. Voilà, les grains sont à l'intérieur.
Bien sûr que l'eau est chaude.
Et maintenant, je commence ma chronique. Alors déjà, en gros, je vous dis, il n'existe que 6 types de thé. Il n'y en a que 6, c'est très simple. Le thé blanc, le thé vert, le thé jaune, le thé oolong, le thé noir et le puer. Et tous ces thés, ils viennent de la même plante, une plante qui s'appelle le camellia sinensis. Et petite question facile, est-ce que vous savez ce qui différencie un thé vert d'un thé noir ? C'est l'oxydation. Ouais. C'est-à-dire la principale chose qui fait passer un thé...
Quand on garde les feuilles, elles s'oxydent.
C'est un peu plus compliqué. La principale chose qui fait passer un thé d'une catégorie à l'autre dans les catégories que j'ai citées, c'est à quel point est-ce qu'on a oxydé les feuilles. Par exemple, quand vous prenez une pomme et que vous la coupez, vous voyez, elle devient toute marron.
Ah oui.
Eh bien, c'est pareil avec les feuilles de thé. Plus vous les abîmez, plus elles deviennent marron. Et plus il y a de marron sur les feuilles, plus le goût du thé va changer. Le thé vert, c'est un thé qui est pas du tout oxydé. On le cueille en faisant super gaffe à pas l'abîmer et on le fait chauffer immédiatement, ce qui a pour effet d'arrêter l'oxydation. Les thés noirs, c'est les mêmes feuilles qu'on cueille, sauf qu'ensuite, on fait exprès de les blesser et donc elles s'oxydent entièrement et ça donne des thés qui ont des saveurs plus de noix, de cuir, de trucs comme ça. Et entre les deux, entre le thé vert et le thé noir, il y a les thés oolong. Les thés oolong sont des thés qu'on a partiellement oxydés, c'est-à-dire qu'on a un peu frotter les feuilles les unes contre les autres. Et les feuilles, elles ont fait... Vous voyez, elles sont oxydées un petit peu sur les côtés. Mais à ce moment-là, on arrête la torture des feuilles en les faisant chauffer. Et donc, l'oxydation s'arrête. Et on a donc ces thés qui sont partiellement oxydés. Mais alors, d'où ça vient, le thé? Et bien là, on est sûr, hein, ça vient historiquement d'un seul endroit. Et cet endroit, c'est la Chine. Il n'y a pas de piège. Pendant 1000 ans, en gros, il n'y a que en Chine qu'il y avait du thé. Et même pendant longtemps, il n'y avait que en Chine qu'on en buvait. buvaient. Et puis il y a les Européens qui sont arrivés en Chine et qui ont goûté le thé et qui ont dit c'est très très bon, c'est très très bon, et ils ont commencé à en acheter. Et vers la fin du XVIIe siècle, c'est devenu un truc chic qu'on buvait dans les cours d'Europe et notamment en Angleterre. Mais bon, au bout d'un moment, dans la première moitié du 19e siècle, les Anglais, ils se sont dit ce serait bien qu'on soit un peu moins dépendant des Chinois. Et un des trucs qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé un espion voler les plants de thé dans les montagnes chinoises, et ils ont implanté ça dans leurs autres colonies qui étaient sous les tropiques et en Inde, en particulier dans la région de Darjeeling, d'où le nom, et aussi au Sri Lanka. Or, vous connaissez l'ancien nom du Sri Lanka. C'est Ceylan. Et voilà. Et c'est le pour ça que ça a donné le thé de Ceylan, qui est donc un thé que les Anglais ont implanté au Sri Lanka pour ne pas dépendre uniquement de la Chine. Et aujourd'hui, le thé, c'est la seconde boisson la plus consommée du monde après l'eau. Alors, je crois
Avant le café.
Avant le café. Alors, je crois que le temps est venu un petit peu. Alors, l'eau n'était peut-être pas assez chaude.
Il s'est rien passé, là, il faut le dire.
Mais voilà, ça a gonflé un petit peu, l'eau.
Ah, elles ont gonflé, oui. L'eau n'est pas assez chaude.
Et en fait, il y a des feuilles qui sortent de vos graines, c'est
ça ? Exactement. En fait, c'est des feuilles qui se déploient. Je suis un petit peu triste parce que l'eau n'est plus assez chaude et donc, du coup, elles ne se sont pas développées assez. Parce que, pourquoi ? C'est un peu foiré ma présentation. Mais c'est des feuilles de thé oolong.
Vous savez, comme on est en radio, de toute façon, personne ne voit l'expérience.
C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être les gens qui regardent.
Elle se déplie
entièrement. D'ailleurs, celles que j'ai mises sur votre table tout à l'heure se sont dépliées un peu. Et ce qui est très bien, c'est que quand vous les dépliez comme ça, vous voyez que c'est des feuilles de thé oolong. C'est les feuilles de thé semi-fermentées et qui sont un petit peu marron sur les bords parce qu'elles se sont fait mal
en se frottant
les unes les autres.
C'est le thé qui a votre faveur, celui-là, le oolong.
Le oolong, j'aime beaucoup le oolong.
Vous savez, il y a des galettes de très 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 vieux thé fermenté noir qui peuvent valoir des fortunes, des centaines d'euros, voire des milliers d'euros.
Ça, c'est la sixième catégorie de thé, le puer, qui est un thé vert qu'on fait normalement et qu'ensuite on laisse fermenter pendant des années et des années.
Et on peut le goûter, il y en a du pas cher ou c'est forcément extrêmement cher ?
Non, il y en a du moins cher parce que maintenant les Chinois ont trouvé une technique pour faire la même chose qui avant prenait 25 ans en 3 mois.
Ah,
et donc ça, c'est beaucoup moins cher.
Il ne faut pas acheter les sachets de thé, il faut acheter du thé en vrac.
Mais bien sûr, Stéphane,
les sachets, c'est des rognures de thé. En fait.
Bien sûr.
Ah, on est d'accord.
Souvent, oui.
On est d'accord. Merci beaucoup, David.
Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio, mais en vidéo aussi sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Le dîner approche à grands pas. Heureusement, Olivier Pouls est parmi nous pour nous livrer l'histoire d'une recette qui s'intitule la caponata.
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 Oui, exactement. Un plat sicilien. Vous m'avez dit tout à l'heure que je ne faisais que des ratatouilles et que je les accommodais à ma façon. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait une ratatouille quand même. Il y a l'esprit, évidemment, d'un certain nombre de légumes qui sont cuisinés ensemble et qui mijotent. Ça, c'est la base. Mais les légumes de base de la caponata ne sont pas du tout ceux de la ratatouille provençale dont on a parlé il y a quelques jours, quelques semaines. Puisqu'ici, il s'agit avant tout d'aubergines, de céleri, d'oignons, de tomates, d'olives, de capres, mais aussi de vinaigre, qui est un ingrédient très important de la caponata.
Mais c'est une entrée, c'est un plat principal, qu'est-ce que c'est ?
Ça se sert aujourd'hui assez volontiers comme accompagnement de poisson, par exemple.
Ah oui.
Mais traditionnellement, c'était un plat entier qu'on servait sur du pain, par exemple. C'était un plat plutôt de pauvres, bien évidemment. Alors, ses origines sont probablement espagnoles. Il faut dire que ce sont les Espagnols qui ont apporté en Europe la plupart des produits qui servent à faire la caponata, et que donc les Espagnols ont beaucoup voyager, ils sont allés évidemment en Sicile, et une chose est certaine, c'est que c'était un plat de marin. Alors, selon une théorie, il serait né sur un bateau, et il était justement servi très vinaigré, parce que ce vinaigre servait à conserver tous les ingrédients qui la constituaient. Il y a une autre théorie qui dit qu'on le trouvait dans les tavernes siciliennes, et que d'ailleurs caponata viendrait de copo, qui veut dire taverne en latin, et c'est un plat qui servait à revigorer les marins avant qu'ils ne partent en mer ou qu'ils reviennent. Et puis, il y a une dernière théorie qui dit que le plat était à l'origine un plat de poisson, mais que le poisson étant devenu trop cher à une époque, il a été remplacé par l'aubergine et il tirait son nom d'un poisson qui était à l'époque pêché en Sicile.
Il y a beaucoup de théories quand même.
Il y a beaucoup de théories, mais vous savez, il n'y a pas de précision. Puis surtout, ce qui complique encore les choses, c'est que le plat a été adopté par la plupart des familles siciliennes. C'est devenu un plat très traditionnel là-bas et que, évidemment, au fil des ans, chaque famille a rajouté son petit grain de sel ou sa petite technique. Et on ne peut pas dire qu'il existe une recette de caponata officielle, mais il y en a beaucoup. Moi, je vais vous proposer...
Si on le dit, c'est à nos risques et périls.
Oui, voilà. moi, je vais vous proposer la mienne. Ce n'est pas très, très compliqué à faire, et puis surtout cette saison. Donc, vous allez prendre 500 grammes d'aubergine que vous avez coupée en rondelles. Vous allez les faire dégorger dans le sel, parce que l'aubergine est pleine d'eau, donc il faut l'enlever un petit peu. On recouvre de sel. On laisse ça pendant 2-3 heures. Et puis, on les rince un petit peu, on les éponge bien, et vous avez des aubergines qui vont moins prendre la graisse, parce qu'il s'agit ensuite de les frire dans de l'huile d'olive. À côté de ça, des tiges de céleri, des tomates, un bel oignon, des olives, des pignons de pin, des câpres. Je vois que David a les câpres.
C'est le thé.
Ouais. Il a plus l'habitude.
Il n'a plus l'habitude. Il passe pas.
Des câpres, et puis évidemment du vinaigre et un tout petit peu de sucre. Et tous ces ingrédients, le céleri coupé en morceaux, les tomates, l'oignon, les olives, on fait d'abord revenir tout ça dans l'huile d'olive. Et on finit la cuisson avec le vinaigre et un tout petit peu de sucre. Quand l'ardeur du vinaigre est partie, parce qu'il ne faut pas que le plat soit trop dur, soit trop difficile à manger, eh bien on rajoute les aubergines. Et voilà, on a une espèce de ragoût de différents légumes vinaigrés, ça qui est très intéressant, qui est très important dans la caponata. Et je précise qu'en ce moment, la mode, c'est plutôt de la servir froide. Je pense qu'elle a été servie chaude à un moment, mais traditionnellement, maintenant, la caponata se sert plutôt froide.
Plutôt froide, merci Olivier, vous m'avez... Donner envie et me donner envie avec des légumes, c'est un exploit. On retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane, vous qui pensiez que la caponata était un art martial, enfin, nous allons pratiquer un peu de sport dans ce studio.
Sport intellectuel.
Sport intellectuel.
C'est la lutte finale, quiz qui oppose Olivier Mathieu David. Je pose des questions sur un thème qui nous passionne tous ici autour de la table.
Le sexe.
Non Mathieu, non, pas le sexe. L'histoire, historiquement vôtre, c'est une émission sur l'histoire. Il faudrait quand même que vous vous y fassiez au bout d'un moment.
Parfois on parle de sexe quand même aussi, oui. Le sexe dans l'histoire.
Mais, voilà. Alors, on commence par vous Olivier. Quelle personnalité historique est morte à Clamart dans les Hauts-de-Seine? Omar Bongo, Yasser Arafat ou Charles Pasqua?
À Clamart, je me demande bien si c'est pas Omar Bongo. Je pense que c'est lui.
Je vous le demande, c'est, vous pensez Omar Bongo?
Je pense à Omar Bongo, oui.
Moi, non, Omar Bongo, est l'ancien président gabonais, est mort à Barcelone. Et mais, Charles Pasqua, il y avait le pied, on pouvait penser, Pasqua, il est mort à Suresnes, aussi dans les Hauts-de-Seine. Mais c'est Yasser Arafat qui est mort à l'hôpital
Percy à l'hôpital
en 2004. David.
Oui.
Quand on dit de quelqu'un que c'est un vieux briscard, ça vient en fait du 18e siècle dans le milieu des marins. Le briscard est l'inverse d'une petite brise et seuls les navigateurs expérimentés pouvaient s'en sortir sans dommage. Vrai ou faux?
Un vieux briscard, c'est celui qui sait résister à des tempêtes.
Ne regardez pas, David.
Puis je vais dire que c'est vrai.
Et non. Le briscard, c'était le galon en forme de V que les soldats napoléoniens avaient pour coutume de se coudre sur la manche quand ils se réengageaient. Plus on avait de brisques, plus on était un vieux briscard. Ouais.
Et pourtant, Napoléon.
Balle de match pour Mathieu.
Il se passe des choses en régie qui sont... Je suis obligé de porter ça à la connaissance des auditeurs parce qu'on me demande de perdre à ma question pour qu'on puisse faire la dernière question qui est la quatrième question que j'ai teasée tout à l'heure. Vous voyez le degré de machiavélisme qu'on a dans ce studio quand même.
Oh,
pas du tout, envoyez la question.
En 1923, est créé le drapeau breton. On appelle Gwenadu. En breton, ça veut dire blanc et noir. Effectivement, il est blanc et noir. Vrai ou faux?
Stéphane, non. Je pense que c'est une idiotie. Je ne pense pas du tout que Gwenadu signifie le blanc et noir. Non. Oh non, j'étais tout près de gagner. Oh.
Alors, vous avez donc tous les trois droit à la question
la
qui départ.
La vérité.
La réponse la plus proche remporte la lutte finale. On en a parlé tout à l'heure avec Clémentine Portier-Kaltenbach. Nous avons évoqué le Panzerkampfwagen, le tank le plus lourd de l'histoire jamais construit. Il a été par Porsche pour le chancelier Hitler. Il roulait à 13 km/h, mais combien pesait-il en tonnes?
Il roulait à 13 km/h.
Oui.
Combien il pesait
Combien
en tonnes?
Combien il pesait en tonnes?
120 tonnes.
120 tonnes. Qui dit mieux?
Non, je dis pas mieux. Déjà, je réfléchis. On n'a pas la longueur du tank?
Ah non,
excusez-moi, pas ça.
Non,
ça, j'ai pas ça. On n'a pas d'informations supplémentaires. Et moi, je dirais qu'il pesait 8 tonnes.
8 tonnes.
Moi, je dis 12.
8, 12, 120, c'est Olivier Pouls qui gagne.
Mais non.
Il pesait 188 tonnes.
What? C'est impossible, Stéphane.
C'est pas possible.
188 tonnes, vous vous rendez compte, pour bouger.
Bah, quand on part à 35 tonnes, les semi-remorques, non, là, qui sont 35 tonnes.
Et en plus, il y avait tout le blindage autour.
C'est 4000 litres pour 100 km, un bilan carbone pas très performant. Vous voyez, alors que vous auriez pu répondre vrai pour les bandes noires de Gwenadu et que vous auriez gagné
le remue, le couteau dans la plaie.
Vous avez préféré, la lutte finale. Enfin voilà, bravo.
Je suis un peu.
Ah oui, je comprends. Hein,
je suis mauvaise.
Vous vous sentez cocu.
Et je me sens cocu. Et quand on pense que Porsche fait des voitures extrêmement légères, surtout que ce travail sur le poids, qui pesait je ne sais plus combien de centaines de tonnes, n'a aucun sens. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève sur une victoire d'Olivier Pouls. Saluons-le. Il était consacré aujourd'hui à ces personnages de l'histoire qui ont inventé leur propre comédie humaine. Alors, Stéphane, concentrez-vous. Lequel vous a le plus fasciné, Balzac, Chabrol ou Welbeck?
L'original, Balzac.
L'original, c'est vrai que c'était fort intéressant et le film était magnifique.
Oui,
le film
de absolument, Eugénie Grandet, de Marc Duguin, dont j'aime toute l'œuvre aussi. Comme vous, vous aimez l'œuvre. Non, mais il écrit de très bons livres
bien
aussi.
Bien sûr, on se souvient de La Chambre des officiers. Demain, exactement. Stéphane, j'ai cru comprendre que j'avais encore hérité du portrait le plus complexe, le portrait de fond de l'émission, hein, c'est
oui,
ça?
Vous avez bien compris, Mathieu, oui, en effet, oui. À l'occasion, notre spécial « Oh, les mains vertes ». J'évoquerai le jardinier de la cour du roi, donc André Le Nôtre, mm-hmm. la paysagiste américaine Béatrix Farran, et vous, les tortues ninja.
Oui, super. Je crois entendre votre rire en conférence de rédaction quand vous avez défini cette répartition. Eh bien, hihi aussi, Stéphane. À demain quand même.
Sans rancune. À demain, Mathieu. À demain, les amis. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.